Alors, bienvenue à cette nouvelle édition du Double Dribble Podcast, encore une fois animé par Benjamin et Samuel. Nouvel épisode qui va porter sur le retour des finales de l'Est et les finales de l'Ouest et projection sur la finale de la NBA opposant les Raptors aux Warriors de Golden State qui va commencer ce jeudi à compter de 9h. Donc, on va commencer avec l'Ouest, série qui opposait les Golden State Warriors aux Portland Trail Blazers. Deux équipes qui ont eu des parcours quand même assez différents depuis le début des playoffs. Golden State qui a commencé sa série de playoffs contre les Clippers de Los Angeles. Les surprenants Clippers qui ont réussi à enlever deux matchs aux Warriors. Mais ce qu'on retient surtout dans cette série-là, c'est la blessure de DeMarcus Cousins au match numéro 2. Malgré la blessure de DeMarcus, les Warriors étaient beaucoup trop forts pour les Clippers. Donc, se rendre en finale, en demi-finale de l'Ouest contre les Rockets de Houston. Série qui est menée 2-0 par les Warriors au début. Donc, les deux matchs gagnés à la maison. On se transporte du côté de Houston. Les deux matchs également qui sont remportés à la maison par les Rockets. Donc, il y a 2-2. Après ça, au match numéro 4, il y a blessure de Kelly ou c'est au match numéro 5? Match numéro 5. Donc, Kelly commence le match numéro 5. Finalement, se blesse. Les Warriors, quand même, qui réussissent à remporter ce match-là et qui réussissent à finir ça à l'extérieur pour l'emporter 4-2 contre les Rockets de Houston pour se rendre en finale de l'Ouest contre les Trailblazers. Trailblazers qui ont commencé leur série contre les
Spurs. Non, non, ils ont commencé contre le Thunder, pardon. On a parlé de Portland, on s'est vraiment trompé là-dessus. Les Trailblazers qui ont commencé contre le Thunder d'Oklahoma City. Gros duel entre Damian Lillard et Russell Westbrook. Finalement remporté en 5 par Portland sur un game winner. Incroyable de Damian Lillard sur Paul George. Vraiment une série largement gérée par Portland. Lillard qui a réussi son duel contre Westbrook. C'était vraiment un beau duel entre ces deux-là. Et par la suite, Portland est allé jouer contre
les Nuggets.
Les Nuggets qui, eux, avaient joué contre les Spurs en première ronde. Donc, on a rétabli tout. Donc, super grosse série contre les Nuggets. Ça se joue en 7. Après qu'on se soit échangé un peu les matchs, il n'y a pas eu d'avance de 2-0 ou de 3-1 comme ça. Vraiment, on s'est échangé les matchs. Pardon. Et finalement, on a Portland qui a remporté un match 7 alors qu'il perdait par une quinzaine de points. Je pense que c'était 17. Vraiment, là, Portland a très, très bien géré son match 7 contre les Nuggets. Et par la suite, on affronte les Warriors, les champions en titre, 3 fois en 4 ans, sans Kevin Durant. Donc on se disait, les Trailblazers ont une chance de compétitionner.
Oui, mais avec l'absence de Durant, c'est sûr qu'il y avait un gros pion là, du côté de Golden State qui manquait. Donc on se disait, il n'y a personne qui voyait les Trailblazers gagner cette série-là. Par contre, on savait qu'on devait attendre un gros Damian Lillard, un gros CJ McCollum, puis qu'il devait avoir au moins un joueur outre ces deux joueurs-là qui devait step up, que ce soit sur le banc ou même un autre membre du Starting Five qui devait sortir, puis vraiment comme aider ces deux joueurs-là parce qu'ils ne pouvaient pas faire tout seul. Fait qu'on on se transporte au match numéro 1, qui est un match qui était à domicile pour les Warriors. Quart numéro 1 remporté par les Warriors. Rien de trop dominant. Là, un quart qui se finit 27-23. Quart numéro 2 également qui se remporte 27, mais à 22 pour les Warriors. Quart numéro 3 qui est remporté par Portland, 26-23. Mais là, c'est vraiment au quatrième quart que Golden State a explosé avec une production de 39 points versus 23 du côté des Blazers. Donc, match numéro 1 qui est remporté par les Warriors, 116 à 94. Donc, match numéro 2 également à la maison pour les Warriors. On s'attendait peut-être à avoir une équipe des Warriors un peu plus... une équipe de Portland un peu plus dominante qui allait vraiment essayer de ramener ça à 1-1.
Peu plus affamé.
Ouais, un peu plus affamé. Il fallait être plus présent en défensive. Là, il y a toujours pas de Durant. Donc, qu'est-ce qu'on fait du côté de Portland? C'est qu'on se ramène à Golden State avec le couteau entre les dents et on essaie d'aller chercher ce match-là. Malheureusement, ça n'a pas été le match escompté du côté de Portland. Une autre victoire de Golden State.
Ouais, dans le fond, Portland qui venait de 15 points à la demi. On avait vraiment bien commencé le match. Une bonne contribution de tout le monde. Prend un des meilleurs matchs de Damian Lillard dans la série. Pas eu une série extraordinaire, mais c'était un de ses meilleurs matchs. Comme je l'ai dit, là, une contribution d'un peu tout le monde. Le McCollum qui est allé d'un 22 points. Seth Curry qui a joué un gros match contre son frère avec un 16 points. On a eu Rodney Hood qui était capable de faire 12 points. Donc, comme je l'ai dit, une contribution d'un peu tout le monde. Par contre, dans le deuxième match, c'est là que j'ai vu, je pense, le déclin d'Enes Kanter qui s'est fait sentir après son énorme série contre les Nuggets. Là, comme on l'a dit, là, il joue pendant le Ramadan. Puis il est blessé aussi aux épaules. Donc, dans la série contre Warriors, vraiment, on a vu Kanter qui était vraiment brûlé là, au bout du rouleau. Comme dans ce match-là, il a juste joué 20 minutes. On a fait confiance on a fait jouer plus de joueurs du banc là, pour essayer de d'épauler Kanter là, qui avait beaucoup de difficultés physiques. Donc voilà les Warriors qui remontent la pente dans ce deuxième match après avoir tiré de l'arrière par 15 points. On remporte le troisième quart comme à notre habitude, très fort au troisième quart les Warriors. On ramène ça égalité après un quart 39-24. Et au quatrième quart, les Warriors qui ont gagné un quatrième quart assez serré, 25-22, pour remporter le match, 114-111, et ainsi prendre les devants 2-0 dans la série. Et vraiment donner un solide coup là, à Portland, qui avait pas beaucoup d'espoir au début de la série de remporter. Mais là, 2-0, vraiment, là, c'était quasiment mission impossible pour les joueurs de Portland.
Ouais, exact. Là, c'est vraiment là, on voyait l'obstacle là, qui se dressait devant eux. Puis là, tu voyais, je pense, sur les deux premiers matchs, toute l'expérience de la bande de Steve Kerr, qui était vraiment comme dominant. Mais ce qui ressortait de ces matchs-là, c'est vraiment le calme que cette équipe-là avait. C'est une équipe qui en a perdu des matchs en playoffs, c'est une équipe qui en a gagné. C'est une équipe qui sait comment gagner quand elle tire de l'arrière aussi. Donc, ne panique pas. Applique le plan de match, puis tranquillement, il suffit juste de un run, deux runs, puis on est de retour dans le match, puis on se donne une chance de compétitionner jusqu'à la fin. Donc, sur ces deux matchs-là, c'est vraiment ça qui ressortait le plus. Par ça, sur le match numéro 3, un peu un scénario un peu pareil que le numéro 2, là, le quart 1 et 2 qui est remporté par Portland. Encore une fois, qui a une avance d'environ 15 points. À la demi, ou un petit peu après la demi. Puis après ça, c'est un autre run de Golden State qui fait seulement 29 points, mais qui contient les Trail Blazers à seulement 13 points dans le troisième quart, là, qui est vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup. Et après ça, dans le quatrième quart, les Golden State Warriors qui réussissent à dropper 28 points contre 20, donc un match qui est remporté au total 110 à 99 pour les Warriors. Et là, à 3-0, au pied du mur, là on donnait pas cher de la peau des Trailblazers.
Non, c'est ça. Puis en plus, les Warriors comptent sur un Steph Curry qui est complètement en feu dans cette série-là. Troisième match de suite avec au moins 35 points. Donc, il mène vraiment son équipe là, avec son leadership et par ses points. Et encore une fois, on voit, et aussi mené par Draymond Green qui va en un triple-double dans ce match-là, 20-13-12. Donc, c'est vraiment les deux superstars de Golden State, ces deux joueurs-là, qui mènent l'équipe avec eux. C'est sûr qu'ils sont épaulés d'un Klay Thompson, là, mais vraiment, c'est ces deux joueurs-là là, qui sont à l'avant. Et au niveau des Trailblazers, ben, on a un Damien Lillard qui répond pas à l'appel là, de mener son équipe là, sur ses épaules. CJ McCollum fait bien, mais on n'est pas au niveau qu'on doit être pour pouvoir espérer remporter les matchs contre Golden State. Et encore une fois, comme on le disait, là, on a un escanteur qui est complètement... les batteries sont à plat.
Puis Draymond Green qui donne aucun repos
exact,
non plus.
Et donc, Kantar qui joue seulement 5 minutes dans ce match-là, on met du Myers Leonard plus souvent. Le banc joue plus souvent parce qu'on essaie de vraiment changer les formations, essayer de trouver... vraiment, on essaie de tout chambouler pour essayer de trouver une solution pour battre les Warriors. Mais vraiment, là, en deuxième demi... Les Trailblazers sont pas capables de tenir l'avance contre le Golden State, qui est une équipe qui perd par 10 points, c'est rien pour eux. Ils vont pas perdre leur confiance, ils vont pas être nerveux, ils vont pas prendre des mauvaises décisions, ils vont vraiment bien jouer, remonter, faire des runs. Donc, les Warriors qui remportent le troisième match à Portland pour mener 3-0 dans la série. Et là, comme on l'a dit, là, c'était pas mal. La série était pas mal terminée là. Pour Portland.
Ouais, exact. Puis après, on se ramène au match numéro 4 à domicile pour Portland. Portland qui démarre le match quand même assez bien offensivement, le 35 points, mais 36 points du côté de Golden State. Le deuxième quart qui est remporté 34-29 du côté des Blazers. Donc on retourne au vestiaire avec une avance, je crois, de 4 points. On se ramène dans le troisième quart. On remporte ce quart-là. Corps que les Warriors sont toujours dominants, mais on les contient à 22 et on marque 26 points. Donc là, si on est capable de contenir les Warriors au troisième quart, au quatrième quart, on a été capable aussi, mais on n'a pas été capable de scorer assez offensivement. Donc les Warriors qui réussissent à créer l'égalité pour aller en prolongation. Et là, c'est là que ça s'est joué finalement. Les Warriors en période de prolongation ont marqué 8 points contre 6. Donc un match qui se termine 119-117. Donc les Trailblazers se font sweeper. Je pense qu'il n'y a personne qui s'attendait à ce qu'ils les battent, mais se faire sweeper de la façon qu'ils ont joué tout le long des playoffs, c'est un peu décevant. Mais il n'y a personne vraiment qui va rester qui est fâché du résultat nécessairement là, du sweep. Parce qu'on se rappelle, l'année dernière, on s'était fait sweeper en première ronde contre les Pelicans. Donc là, en arrivant dans la campagne de playoff, là, on gagne en 5 contre OKC, qui est une équipe qui a de l'expérience en playoff. Donc on finit ça, on bat les Nuggets en 7. Donc on a fait deux excellentes séries. On réussit à atteindre les finales de l'Ouest. Donc le résultat est plate, le 4-0. Mais grosso modo, un gros props à la saison de Portland, puis l'année prochaine avec une équipe en santé, c'est sûr qu'ils peuvent apporter des meilleures choses. Donc, Celtics, la deuxième série, dont tout le monde parle présentement, si vous habitez au Canada, les Warriors contre... Les Raptors contre les Bucks, premier et deuxième de l'Ouest.
De l'Est.
Les deux équipes avec la meilleure fiche dans la NBA.
Exactement.
Donc, on savait déjà qu'à l'issue de cette série-là, le gagnant allait accueillir la finale de la NBA à la maison pour les deux premiers matchs. Donc, ça, c'était vraiment acté déjà. Et là, cette série opposait M. Giannis Antetokounmpo et Kawhi Leonard, qui tous deux ont mené leur équipe de main de maître jusque-là. Et là, au match 1, on se déplace du côté de Milwaukee pour le match numéro 1. On retrouve une équipe de Milwaukee relativement bonne. Même chose du côté des Raptors, mais c'est vraiment le banc des Bucks qui a réussi à upstager les Raptors, là, notamment mené par Brook Lopez avec, je crois, 3 points. Je pense que c'est une contribution offensive là, d'une vingtaine de points.
Je pense que c'est 29. Son meilleur match en série En carrière?
Ouais, quelque chose du genre.
Donc, ouais, le premier match, les Bucks qui jouent bien, mais les Raptors qui sortent très très fort au match 1, on mène, on est confiant, on a une avance pratiquement tous les quarts, si je ne me trompe pas. On remporte le premier, on remporte pas le deuxième, mais on a quand même parce qu'on gagne le premier quart quand même 34-23, donc on a quand même une bonne avance. Pardon. Deuxième quart remporté par les Bucks, mais seulement par 3 points. Mais là, à partir de la demi, on a vu les Bucks qui ont un petit peu mis la deuxième vitesse. Comme tu l'as dit, le banc a repris un petit peu les rênes de l'équipe pour remonter ça. Et le banc de Toronto qui n'a pas été excellent. Donc les Bucks qui remontent le match et qui égalent. C'est notamment au quatrième quart là, vraiment là, que les Bucks ont repris l'ascendant. Après le troisième quart, on avait encore une avance du niveau de Toronto, mais au quatrième quart, vraiment, là, avec un 32-17 de Milwaukee, les Raptors ont été touchés quasiment plus au ballon. C'était des runs qu'on rentrait un panier ou on ratait le panier, puis là, les Bucks repartaient d'une longue possession. Il n'y avait jamais d'arrêt défensif, vraiment. Là, on n'était pas capable de stopper l'offensive de Milwaukee. Et donc, on réussit à remporter le match 108-100. Vraiment un match que Toronto, beaucoup de gens disaient que si la série va loin, peut-être qu'on va se mordre les doigts de ne pas gagner ce match-là parce que c'était vraiment un match qui était à leur portée. Mais comme tu le dis, les Bucks sont menés par un Brook Lopez avec un 29 points et un 11 rebonds. Mais c'est sûr qu'on a un Antetokounmpo en 24-14. Vraiment, on a une bonne contribution d'un peu tout le monde. Brogdon qui est en sortie de banc avec 15 points. Et vraiment, c'est ça qui fait la différence pour Milwaukee.
Oui. Donc, le match numéro 1 qui est remporté par Milwaukee. Là, on se retrouve au match numéro 2. Et là, c'est un match horrible du côté de Toronto. Mais surtout un match extraordinaire du côté des Bucks. Les Bucks sont partout sur le terrain. Tout le monde contribue. Le ballon tourne. On a de la misère à contenir Giannis. Mais c'est ça vraiment surtout que toute l'équipe appuie Giannis. Puis lui donne dans le fond là, des munitions pour remporter le match. Le premier quart de Milwaukee est tout simplement, si vous êtes un fan de basket, allez voir le premier quart de Milwaukee, le ballon tourne, c'est vraiment de toute beauté. Et après ça, le quart numéro 2 est aussi remporté. Je pense qu'il avance de 25 points à la demi là, ou quelque chose du genre, là, que c'est vraiment match... complètement dominé par les Bucks. On voit un Toronto qui essaie de revenir au troisième quart. T'sais, on voit ça descend à 13 points, mais Milwaukee remonte ça tout de suite. Donc ça joue toujours dans la dizaine. Puis finalement, Milwaukee là, qui vient fermer ça à la maison. Donc qui remporte sa mission, gagne ses deux matchs à la maison. Puis après ça, il s'en va sur le terrain des Raptors.
Ouais, donc... Ouais, comme tu l'as dit, vraiment, là, c'est le premier et deuxième quart qui a vraiment coûté le match aux Raptors parce qu'au troisième quart, on a senti une petite remontée, mais c'était trop peu trop tard. On a encore un Kawhi Leonard qui va d'une performance de 30 points pour essayer de faire gagner son équipe, mais vraiment tout seul on dirait qu'il vraiment, là, il est tout seul à donner une solide position. Et malheureusement, les Raptors perdent ce match-là. Beaucoup de gens étaient sceptiques, se disait, là, il va falloir aller chercher une victoire, il va falloir remporter nos deux matchs à domicile, aller chercher une victoire à Milwaukee, ça sera pas facile. Les Bucks n'ont pas vraiment perdu souvent deux ou trois matchs de suite cette saison, donc on avait vraiment une lourde tâche au niveau de Toronto. Match numéro 3 à Toronto, ambiance super dynamique, on connaît la foule à Toronto, au Scotiabank Arena. Donc, les Raptors commence le match en force, comme ils se doivent. Remporte le premier quart, 30-21. On a une contribution d'un peu tout le monde. Vraiment, du niveau de Toronto, on est mené encore une fois par Kawhi Leonard, là, qui est vraiment le leader incontesté de cette équipe-là, qui est vraiment le meilleur joueur. Peu importe la victoire défaite, est souvent le meilleur joueur sur le terrain à chaque match. Donc, on est mené par une performance inspirante de Kawhi Leonard, mais on a aussi un Pascal Siakam qui joue son meilleur match de la série ou presque dans ce match 3-là. On a un match qui est super serré, On remporte le premier quart, ensuite deuxième quart. Milwaukee le remporte, mais de justesse, là, c'est vraiment serré, 30-28. Par la suite, plus le match avance, plus Milwaukee est près du score, on se rapproche. Vraiment, là, on s'échange les avances. Finalement, le match s'en va en prolongation.
Oui, ce qui est important là-dedans, par exemple, c'est beaucoup de joueurs sont en trouble de faute. On a un Kyle Lowry qui fold out autour de 6 minutes du quatrième quart, si ouais, je me exact. Souviens bien. Là, on a un Mark Gasol qui est à 5 fautes. On a un Norman Powell qui va fold out également. On a un Fred VanVleet avec beaucoup de fautes. On a un Danny Green. Tout le monde, je pense un Pascal Siakam qui est à 4 fautes également. Mais de l'autre côté, on a un Giannis aussi qui est en trouble de fautes. Donc, on s'en va vers la prolongation. Donc, on rajoute du temps. Donc, plus de temps pour les Raptors de faire des fautes. On arrive dans la première période. Période de prolongation très, très défensive. Là, il n'y a pas beaucoup de points qui se marquent. Beaucoup de paniers manqués, mais ça joue étanche des deux côtés. Personne ne veut faire l'erreur qui va coûter le match. Finalement, égalité après la première période de prolongation et on se transporte dans la deuxième période de prolongation et les Raptors arrivent de justesse à remporter ce match-là.
Ouais, puis c'est vraiment un match qui, si on peut parler des deux équipes, c'est vraiment Kawhi Leonard et Pascal Siakam qui mènent la charge pour les Raptors. Et on a une très bonne performance de Norman Powell en sortie de banc avec 19 points. C'est vraiment le seul joueur qui donne du soutien aux deux autres joueurs mentionnés plus tôt. C'est vraiment lui qui donne un second souffle à l'attaque de Toronto. Du côté de Milwaukee, probablement le pire match de Giannis dans cette série-là, seulement avec 12 points. Il y a eu 23 rebonds, mais tellement de difficultés au tir, notamment au lancer franc, ce qui a beaucoup amusé Drake, on l'a vu dans les images, et la foule qui est très dérangeante pour Giannis lorsqu'il essaye ses lancers francs. Là, on a toutes sortes de stratégies, là, on a le super fan là, qui lance un espèce de foulard quand Giannis lance, on a au niveau de la planche où est-ce que Giannis regarde pour lancer son free throw, ben on a vraiment des gens qui bougent. Donc, c'est de bonne guerre. On essaie de déconcentrer Giannis et ça fonctionne puisqu'au lancer franc, beaucoup de difficultés. On a un très beau gros match du banc aussi là, du côté de Milwaukee parce qu'on a Brogdon et Hill en sortie de banc qui vont de 20 et 24 points. Parce qu'au niveau du starting, les 5 joueurs ont chaque... tout le monde est près du 10 points. On a 10 points pour Mirotic, 12 Antetokounmpo, 16 Lopez, 9 Middleton et 11 Bledsoe. Vraiment là, très difficile pour le 5 partant de Milwaukee. C'est vraiment le banc qui a un peu sauvé le match de Milwaukee pour être aussi près de la victoire et se rendre en prolongation.
Oui, exactement. Ce qui est important de mentionner aussi, c'est pour Toronto, la série contre Philadelphie, on avait une production du banc qui était vraiment nulle. Mais dans la série contre les Bucks, on a vu le banc éclore. Serge Ibaka, qui avait quand même connu, mine de rien, une bonne série contre les 76ers, continue sur sa lancée. Mais c'est vraiment Norman Powell qui joue comme un titulaire. Parce que Danny Green, la production offensive de Danny Green étant nulle, Norman Powell prend les devants. Et montre qu'il est un joueur qui est prêt pour les playoffs. Et Fred VanVleet aussi, qui commence à prendre un peu ses aises. Donc pour le match 3 remporté par Toronto, on se transporte au match numéro 4, encore une fois, au Scotiabank Arena. Et là, c'est un peu comme le match 2 des Bucks. Les Raptors remportent ce match-là avec aisance, 120 à 102. Tous les quarts sont remportés par les Raptors. Tout le monde contribue. Kawhi Leonard, seulement 19 points, seulement joué que 34 minutes aussi, donc un peu plus de repos pour Kawhi. Mais après ça, on a du Mark Gasol avec 17 points. Kyle Lowry qui connaît une excellente série avec un 25 points. Norman Powell, 18. VanVleet avec 13. Serge Ibaka avec 17. Donc c'est vraiment le banc qui amène ce second souffle à la série. Donc, c'est ça, match numéro 4 remporté par Toronto. Et là, on s'en va du côté de Milwaukee. Mais dans le match numéro 4, on a un Drake qui en fait peut-être trop au goût du coach des Bucks. Donc là, il y a des déclarations dans les médias comme quoi Drake devrait s'asseoir, est une distraction pour la NBA. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de déclarations. Beaucoup de gens, sont d'accord avec le message que Mike Budenholzer véhicule, mais la plupart se disent « Ah, pourquoi tu focuses sur un seul gars qui ne joue même pas au basket, puis tu focuses pas sur ton plan de match pour le match numéro 5? » Donc, match numéro 5, on retourne du côté de Milwaukee, et il y a quand même full au Scotiabank Arena, là, dans le Jurassic Park, que Drake est là aussi, et toute la ville de Toronto est derrière leur équipe.
Ouais, vraiment, au niveau des fans de Toronto, là, tout un soutien tout le long de la série. Le match numéro 5, tellement important. Tout le monde le sait, là, c'est le match pivot de toutes les séries en 7 la plupart du temps, quand on va d'une série serrée. Milwaukee qui sort très fort au premier quart, remporte le premier quart 32-22. Au niveau de Toronto, là, on avait des interrogations au début de match. Kawhi Leonard, encore une fois en forme. Danny Green, toujours pas de production offensive. Donc, à part son jeu défensif, il ne peut pas vraiment apporter grand-chose. Marc Gasol, tranquille aussi offensivement. Pascal Siakam est là, mais au niveau offensif, c'est correct. Kyle Lowry joue bien. Donc, là, on se dit, on perd au score. On a de la difficulté. Nos gros joueurs ont de la misère à faire des points, sauf Kawhi. Milwaukee a un bon rythme, mais là, au deuxième quart, Toronto réussit à réduire l'écart. C'est vraiment, dans ce match-là, comme on l'a dit, le banc s'est réveillé dans cette série-là, mais ce match-là, c'est vraiment Fred VanVleet qui a sonné la charge pour Toronto, surtout en deuxième demi. Fred VanVleet qui a réussi 7 lancers de 3 points sur 9, vraiment a énergiser cette équipe de Toronto-là au bon moment pour faire des runs et pour reprendre les devants contre Milwaukee. Vraiment, début du troisième quart, Toronto qui... On était à du... À la fin du troisième quart, Milwaukee mène par un point. Donc, au début du quatrième quart, vraiment, c'est à partir du premier quart, vraiment, que VanVleet s'est mis en marche. Je pense qu'il y avait 6 points après 3 quarts, mais vraiment haut au quatrième quart. Il est allé de 3 points tellement important qui a mené Toronto vers la victoire. Vraiment, en fin de quatrième quart, on a réussi à se détacher de Milwaukee pour pouvoir aller chercher cette victoire-là. Encore une fois, du côté de Milwaukee, on a une bonne performance de Malcolm Brogdon, qui a quand même joué une très bonne série pour Milwaukee. Eric Bledsoe, qui connaît un bon match aussi, avec 20 points. Mais là, du côté de... C'est vraiment Chris Middleton qui a peiné dans ce match-là. Il a quand même eu 10 rebonds, 10... Il a, en double-double, 10 rebonds, 10 passes, mais seulement 6 points. Vraiment beaucoup de difficultés au tir. Giannis qui récolte 24 points. Mais encore une fois, des difficultés au lancer franc. Il récolte des points, mais au lancer franc, souvent, qui sont des points qui sont tellement importants selon la situation. Tu sais, comme on l'a dit dans une autre vidéo, c'est des free throws, donc... C'est des points qu'on se doit d'aller chercher. Et Giannis, c'est souvent dans les moments importants qu'il a eu des lancers francs à aller chercher. Et la plupart du temps, en réussissait toujours un sur deux. A fait des airballs, comme on appelle, là, pas touché du tout à l'anneau. Vraiment, là, très difficile pour Giannis dans cette série-là au lancers francs. Et Toronto qui réussit l'impossible un peu de remporter le match 5 à Milwaukee pour retourner à domicile pour essayer de gagner la série.
Ouais, exact. Là, on a Fred VanVleet, comme tu as dit, là, je pense sur les derniers matchs, tire au-dessus de 80% à 3 points, là, ce qui est énorme dans la NBA. Mais là, tu le vois, il est dans sa zone. Même chose pour Norman Powell encore. Là, peut-être moins grande contribution offensive, mais présent défensivement, fait tourner le ballon également. Donc, on se transporte du côté de Toronto pour le match 6. Match le plus important de l'histoire du basket pour les Raptors. Toronto qui n'a jamais eu accès à la finale de la NBA. Donc là, il y avait énormément de pression sur les épaules des joueurs de Toronto. Match qui commence extrêmement mal pour Toronto. On sent une équipe qui n'est pas vraiment dedans, fatiguée. Donc, les Bucks en profitent, remportent le premier quart 31-18. Le deuxième quart est un peu mieux de la part des Raptors, là, parce qu'avec ce retard-là sur le match, on sent les Raptors tout au long de la rencontre travailler tranquillement pour leurs points, toujours rapetisser l'écart de plus en plus. Donc, un deuxième quart qui a remporté 25-19 pour les Raptors. On revient quand même au vestiaire à la demi avec un petit retard. Troisième quart le début du troisième quart qui est dominé par les Bucks. Je pense qu'il y a 15 points d'avance avec peut-être 4 minutes, en bas de 4 minutes à faire.
Environ.
Puis après ça, là, c'est un run de Kawhi, beaucoup de lancers francs, un lancer franc manqué de Kawhi qui va chercher son propre rebond, faute d'autres lancers. Donc là, on réussit à finir le quart de belle façon pour arriver au dernier quart avec le plus petit retard possible. Et là, les Raptors étaient en mode guerrier. Savait l'importance de ce match-là. Donc, on rapetisse l'écart, on arrive à environ 7 minutes, on réussit à créer l'égalité. Et là, la foule de Toronto est tellement bruyante. On sent l'énergie dans le stade. On sent qu'on est en train de vivre quelque chose de spécial. Les échanges, les avances s'échangent. Là, il y a une avance de Toronto qui commence à se creuser à la fin du match. Après ça, faute, il y a une rentrée de balle. À la fin, environ vers 30 secondes, rentrée de balle, Milwaukee ne fait pas faute parce qu'ils ont encore un shot clock, lancé qui est fait, qui touche la planche de Pascal Siakam, qui kick out, on arrête le jeu, on n'est pas certain de si le tir de Pascal a touché l'anneau, parce que ça l'a touché, mais presque pas, donc rentrée de balle. Pour les Raptors, avec 7 secondes à faire, beaucoup de time-out, d'arrêt. C'est vraiment un peu... C'est pas du beau basket à ce moment-là, mais là, il a finalement rentré de balle. Et là, il y a deux lancers. Et là, on voit les joueurs de Toronto là, commencer à sourire puis réaliser là, qu'est-ce qui se passe pour la première fois de la franchise. Un gars comme Kyle Lowry, qui est là depuis 7 ans, qui a toujours été au cœur de cette équipe-là, que finalement, là, tous ces efforts-là menés à travers les années, où il était avec DeMar DeRozan avant. Mais là, avec Kawhi, on sent une équipe, Mark Gasol, qui est une belle addition à cette équipe-là, on sent une équipe, on peut le dire, là, je pense que c'est la meilleure équipe de Toronto que la ville a jamais eue.
Ouais, vraiment. Au niveau du match, comme tu l'as dit, Toronto qui rétrécit les quarts tout au long du troisième quart. On finit un bon troisième quart. Quatrième quart qui débute avec première séquence offensive, Fred VanVleet qui reçoit un gros 3 points et qui donne l'exemple. Et vraiment, Fred VanVleet va connaître encore un excellent quatrième quart avec ses fameux 3 points. Et comme on l'a dit, les Raptors qui rétrécissent les quarts. Si je me souviens bien, on regardait le match ensemble. Je ne vais pas faire mon expert, mais Mark Gasol n'avait pas pris un tir du match et je disais que Mark Gasol devait faire des 3 points pour qu'on remporte le match. Vraiment, quand Gasol réussit les 3 points, Toronto ne peut pas perdre. Quand Gasol réussit 3 points, c'est vraiment quelque chose qui ajoute encore plus à l'offensive de Toronto. Et mon souhait a été exaucé. On passe le ballon à Gasol dans le coin. Premier 3 points essai du match, il l'a réussi. Pas longtemps après, on lui redonne le ballon encore une fois. Son deuxième essai, deuxième lancé de 3 points réussi, ça accentue la pression, ça nous donne l'égalité, ça a vraiment donné un coup de pouce les 3 points de Gasol. Et par la suite, quand Toronto se creuse une petite avance, on a un dunk complètement fou de Kawhi Leonard sur Giannis Antetokounmpo, qui a vraiment, je pense que c'est vraiment la séquence qui a complètement brisé les Bucks et qui a dit « Non, vous gagnez pas ce match-là, c'est nous qui sommes en finale ».
Oui, c'est sur un steal de Kyle Lowry. Kyle Lowry qui reconnaît la situation. On connaît toute la grandeur du grec. Donc, sur la contre-attaque de Lowry, voit bien qu'il n'y a pas vraiment de chance de faire un lay-up sans se faire contrer. Donc, se met un peu en interférence avec Giannis, passe le ballon en retrait un Kawhi Leonard à pleine vitesse. Et là, c'est un dunk spectaculaire sur un des meilleurs contreurs de la NBA. Donc là, le Scotiabank Arena explose. On sent là, que ça, c'est vraiment, comme tu as dit, le clou là, dans le cercueil des Bucks. Et après ça, des mauvais choix du côté des Bucks. Des moments comme de manque de lucidité sur un lancer franc aussi. Kawhi Leonard qui réussit à récupérer un rebond avec des Bucks quasi immobiles. Donc pour nous donner une possession de plus. Un mauvais tir de Middleton aussi pour essayer de créer l'égalité. Des ballons perdus. Donc les Bucks, là, on les reconnaissait pas dans les deux derniers matchs de la série comme étant les meilleurs de la NBA. Et pour Toronto, c'était vraiment, dès le début de la saison, c'était le mot d'ordre. Il faut se rendre en finale de l'Est et finale NBA si possible. Donc on est là. Les Raptors de Toronto vont affronter les Warriors de Golden State à partir de jeudi le 20... Non, c'est le 30.
Ce sera le 30, nous sommes le 27, ouais. Exactement.
Donc ça va être le 30. Match qui est à Toronto.
Gros avantage.
C'est un excellent avantage. Donc dans un match qui peut aller jusqu'en 7. Donc en cas d'égalité 3-3, le match ultime sera disputé à Toronto. Donc c'est quand même un avantage quand même assez sérieux pour les Raptors. Donc là, on va faire un petit pronostic, les joueurs à surveiller. Qu'est-ce qui est la stratégie là, que doit adopter là, Nick Nurse et Steve Kerr? Là, on le rappelle, Kevin Durant est toujours blessé.
Oui.
Va manquer le match numéro 1, donc ça, c'est confirmé.
Et il faudrait aussi vérifier parce que lors du match 4 contre les Trailblazers, on n'a pas fait jouer André Iguodala parce qu'il y avait une petite blessure. On voulait le reposer, donc il n'a pas joué le quatrième match. Donc, ce serait à voir s'il va être là pour le premier match. Je ne suis pas certain. Je pense qu'on l'avait reposé préventivement. Il faudrait voir s'il joue le premier match. Si Iguodala est là, ça va quand même être un autre bon avantage pour Golden State. Mais vraiment...
On va assumer pour le match numéro 1 qui est là dans nos pronostics. Et là, je viens de voir OG Anunoby qui vraisemblablement pourrait jouer dans cette série-là. Donc, Nick Nurse qui a dit qu'il serait à une dizaine de jours d'un retour au jeu. Donc ça, c'est une excellente nouvelle pour les Raptors. Excellent défenseur, joueur très grand, mobile défensivement. Là. Un peu le modèle Kawhi Leonard, diminué, mettons, au niveau hype offensive, là, mais responsable défensivement. Donc c'est une excellente nouvelle pour les Raptors. Bonne nouvelle aussi pour les Raptors, la blessure de Kevin Durant. Donc vraisemblablement, on va se transporter dans ce match-là, numéro 1, sans Kevin Durant et OG Anunoby et Iguodala qui devrait réintégrer la formation. Mais là, on va y aller pour le côté match-up. Qu'est-ce qu'on regarde? D'un côté, on a Stephen Curry contre Kyle Lowry qui devrait jouer l'un contre l'autre.
Ça devrait, oui.
Ça devrait. On a du Klay Thompson contre Danny Green. Donc, je crois que Danny Green devrait surveiller Klay Thompson. À moins que Leonard le surveille en attendant le retour de Kevin Durant, parce que c'est certain que quand Kevin Durant va réintégrer la formation, c'est Kawhi Leonard qui va être dessus 100%. Au poste numéro 3, là on aurait peut-être du...
Iguodala.
On va avoir du Iguodala contre du Kawhi Leonard. Poste numéro 4, on aurait du Siakam contre du...
Dépendamment de la formation que Steve Kerr utilise, peut-être qu'on va y aller avec un Kevin Looney qui va être là ou un Draymond Green. Et à ce moment-là, si Green est en 4, on aurait peut-être Looney en 5. Je sais que Steve Kerr aime bien mettre Andrew Bogut en starter en 5. Il fait jouer 5 minutes, après ça, il ne joue plus du match, ce que je trouve toujours très drôle. Donc, exemple, on a un Draymond Green en 4 et un Looney en 5. Un duel Green-Siakam, ça serait très intéressant. Siakam devra être excellent parce que Draymond Green connaît des très bonnes séries jusqu'à maintenant, surtout depuis que Kevin Durant est blessé, ce qui est une
oui, c'est ça, c'est ça, oui, il y a un certain mouvement en ce moment là, parce que quand on voit les Warriors jouer en l'absence de Kevin Durant, on voit les Warriors de 2015 là, un très beau style de jeu, le ballon circule, ça se promène, ça court, ça prend les écrans, ça tire en catch and shoot. Donc, on voit des Warriors qui ont l'air d'avoir énormément de plaisir. Puis un Draymond Green qui a l'air de prendre ses responsabilités, qui n'hésitent pas à monter le ballon. On se souvient, là, un match contre les Clippers cette année, en dernière possession du match, Draymond Green avait voulu monter le ballon, avait finalement là, échappé, avait subi les insultes de Kevin Durant, et là, ça s'était échangé quelques mots qu'on ne répétera pas, mais ça semblait pas être la joie pour ces Warriors-là, du moins au moment. Donc, avec l'absence de Kevin Durant, on voit des Warriors beaucoup plus à l'aise offensivement, ou du moins comme on a moins l'impression que le ballon doit passer par Kevin Durant.
C'est plus créatif quand Kevin Durant n'est pas là. Ça, c'est, on peut dire ça.
Ouais.
On dit pas que quand les Warriors ont Kevin Durant, sont moins bons que quand il n'est pas là. Ça serait un petit peu stupide de dire ça. Là. C'est juste que le style de jeu des Warriors est vraiment différent avec et sans Kevin Durant. Donc, ouais, comme on l'a dit, ça, c'est à peu près les match-ups de position. Le banc va être très important des deux côtés. Si on parle de match-up, au niveau du banc des Warriors, pardon, c'est sûr qu'on a du Sean Livingston qui devrait avoir une genre de petite confrontation avec Fred VanVleet au niveau des positions. Même genre de meneur de jeu un peu petit qui peut rentrer les 3 points. Livingston est un peu plus gestionnaire, passeur. VanVleet qui est plus intense avec ses 3 points. Au niveau du banc de Golden State, c'est sûr qu'on a on a du McKinney, on a, comme on l'a dit, Bogut qui peut jouer ou qui peut être en remplaçant. Dépendamment, quand Durant sera là, ce sera Looney qui sera vraiment le sixième homme. Livingston, souvent, qui est comme en septième. Steve Kerr qui aime beaucoup utiliser des joueurs. Golden State joue souvent beaucoup de joueurs, donc on joue peut-être des fois à 13 joueurs. Des fois, il y a 12 joueurs, 13 joueurs qui jouent, même si c'est des joueurs qui jouent comme 2 ou 3 minutes, là, exactement.
Donc, on rappelle aussi sur les affrontements en saison régulière, les deux matchs ont été remportés par Toronto. Sur le match numéro 1, c'était un match qui avait lieu en fin novembre. Les Raptors avaient remporté ça 131 à 128. On rappelle par contre que dans ce match-là, ni Curry, ni Draymond, ni DeMarcus Cousins n'avaient joué. Par contre, on avait un Kevin Durant vraiment fantastique. Là, il avait compté au-dessus de 50 points contre nous, mais Kawhi Leonard jouait. Et dans le match suivant, c'était milieu décembre, les Raptors avaient gagné 113 à 93. Et là, les Raptors jouaient sans Kawhi Leonard. Mais de l'autre côté, Durant, Curry, Green et Clay ont tous joué. Iguodala n'avait pas joué.
Est-ce que Cousins jouait?
Je me souviens pas.
En tout cas, même si
Cousins... Non, pas encore. Il y avait
si
pas
Cousins
encore.
Ne jouait pas, même s'il jouait, tout un accomplissement là, de battre sans Kawhi Leonard, Golden State. Il y a des gens aujourd'hui, après les playoffs qu'on a connus, se diraient c'est impossible que les Raptors remportent un match sans Kawhi. Tellement il a un impact prédominant, mais c'est sûr qu'en saison régulière, c'est différent. On a une implication de tout le monde, il y a plus de joueurs qui jouent. À ce moment-là, on avait encore Valanciunas, Ibaka, c'était des matchs différents. On peut dire, ah, les Raptors ont gagné leurs deux matchs, c'est bon, on a un avantage. Par contre, il y a tellement de joueurs qui n'étaient pas là, il y a des nouveaux joueurs, il n'y avait pas de Marc Gasol. Vraiment, là, ça...
C'était en début de saison aussi, tu sais, c'est... On était dans le premier tiers de la saison, ou du moins dans la première moitié. Donc, il y a énormément de choses qui se passent depuis ce temps-là. La chimie des joueurs. Il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte. Donc là, pour l'espèce de petit recap Raptors-Warriors, c'est pas mal ça. Je sais pas si toi, tu avais un joueur à surveiller pour cette série-là, mais moi, je vais en avoir avec un. Là, j'espère ne pas te spoiler. Mais pour moi, ça va être Danny Green. Danny Green a connu une série de playoffs atroce contre les Bucks, une présence offensive nulle. On lui donne, c'est pas comme si on lui donnait pas sa chance, mais n'aboutit à rien. Défensivement, il faut lui donner, là, il est très responsable. Puis c'est pas un cadeau joué contre Danny Green, pardon, en défensive. Par contre, il va falloir qu'il sorte un peu de sa coquille. On l'a connu beaucoup plus productif dans la série contre Philly. Donc, je pense à un match, c'est le match numéro 3, je crois. Donc, il avait rentré beaucoup de lancers. Juste une présence d'esprit. Puis, il faut qu'il retrouve sa confiance dans cette série-là. Parce que sinon, les Raptors, ça va être difficile pour eux de remporter ça contre les Warriors.
Ouais, parce que, comme on le dit, Danny Green, ce qui est drôle, ben pas ce qui est drôle avec Danny Green, c'est que continue de bien jouer défensivement, se place bien offensivement, fait les bons jeux, mais c'est juste que son lancer à 3 points ne rentre pas. C'est vraiment juste ça. Donc, si Danny Green retrouve sa confiance et se met à rentrer les 3 points, comme ça va être vraiment très important dans cette série-là, parce que on s'attend à un showdown de 3 points, comme on dit, là. Il va y avoir beaucoup de 3 points, ça va être très important là, quand on joue contre les Warriors de Golden State. Pour revenir moi à mon joueur à surveiller, je vais aussi y aller avec un joueur des Raptors. Je vais y aller avec Pascal Siakam. Du côté de Golden State, on a un très bon backcourt, deux bons guards qu'on appelle en Klay Thompson et Steph Curry. C'est sûr que ça va être un gros duel de devoir contrer ces deux joueurs-là, mais moi je pense que les Raptors ont un certain avantage, c'est près du panier, dans la bouteille, comme on appelle. Avec Pascal Siakam, Marc Gasol et Serge Ibaka, je pense qu'on a quand même un avantage sur les joueurs de Golden State. C'est sûr qu'on a un Draymond Green qui est excellent, mais je pense que si Pascal Siakam est capable d'être dominant, d'au moins égaler les performances de Draymond Green au niveau offensif et défensif, l'apport de Gasol et d'Ibaka en sortie de banc va faire que on va avoir trop de... Au niveau de la grosseur, on est meilleur, on est plus grand, on a plus d'expérience dans ces postes-là. Si on y va avec Gasol et Ibaka, c'est sûr qu'on a un Draymond Green qui a beaucoup d'expérience. Mais après ça, au niveau de Golden State, on a quand même un avantage. Puis Siakam, avec sa vitesse, son agilité et sa capacité à faire des points, surtout avec la planche, pardon, et peut vraiment dominer dans cette partie-là du jeu. Et ça peut vraiment donner un très bon coup de main à Kawhi Leonard qui va devoir, encore une fois, c'est sûr qu'il va connaître une série... monstrueux s'il veut que les Raptors remportent la finale. Mais je pense que si Pascal Siakam est capable d'être excellent, de tirer avantage de la genre de faiblesse, si je peux le dire comme ça, des Warriors, je pense que ça pourrait être la clé de la victoire des Raptors.
Ouais, c'est ça. Puis moi, si je vais pour un joueur des Warriors aussi, là, on va en prendre un des Raptors puis un des Warriors. Moi, du côté des Warriors, ça va être une série qui va devoir être signée Steph Curry. Steph Curry, dans les deux dernières saisons, s'est fait voler la vedette par Kevin Durant en finale. Donc, Durant qui a gagné les deux derniers championnats NBA et les deux derniers MVP des finales. Donc, je pense que c'est peut-être le seul trophée qui manque au palmarès de Stephen. S'il est capable de gagner le tripeat, il va falloir qu'il y ait au moins MVP des finales au moins une fois. Puis je pense que si les Warriors gagnent, il va falloir que ça passe vers lui. C'est le meilleur tireur de tous les temps. Il va falloir qu'il mène cette équipe-là à la victoire. Avec l'avenue de Kevin Durant, on n'a jamais dit que c'était l'équipe de Kevin Durant, parce que je juge encore que Kevin Durant, overall, est meilleur que Stephen Curry. Mais Stephen Curry doit prouver que c'est son équipe puis qu'il est vraiment la tête de gondole là, des Warriors là, des années 2010 et plus. Donc pour moi, Steph Curry doit connaître une série de playoffs là, de finale vraiment monstrueuse.
Ouais, bon choix. De mon côté, pour Golden State, je vais y aller avec Klay Thompson. Parce que je pense que Steph Curry et que Draymond Green vont être excellents. Kevin Durant, il n'y a aucun doute quand il va revenir. Dépendamment quel match il revient, là. Je crois qu'il va revenir au troisième match, Kevin Durant. Là, je pense que c'est la chose la plus plausible. Klay Thompson se doit d'être excellent parce que je pense que Kyle Lowry et Steph Curry vont se livrer tout un duel. Je dis pas que Lowry va faire autant de points que Curry, là, ce serait quasiment impossible. Mais je pense que Lowry est capable, selon son style de jeu, de bien contrer Steph Curry au maximum de ses capacités. Kawhi Leonard va en avoir plein les bras, que ce soit Andre Iguodala qui va être sur lui ou Kevin Durant quand il va revenir. Mais Klay Thompson va avoir Danny Green devant lui. Les deux sont des très bons défenseurs. On peut pas sous-estimer Klay Thompson comme défenseur, il est excellent. Mais si Danny Green est toujours aussi inexistant en offensive et que Klay Thompson, il va juste de performance d'une vingtaine de points par match, Toronto n'aura pas vraiment de chance de remporter cette série-là. Si on a, si je dis bien qu'on a un Curry qui est en forme, on a un Green qui est en forme, et quand Durant revient, est en forme, ça va vraiment être difficile pour Toronto. Mais si on a un Thompson qui a de la difficulté à rentrer ses tirs, qui offensivement est plus un peu plus nonchalant et qu'en défensive n'est pas super dominant, je pense que Golden State va avoir beaucoup de difficultés à passer Toronto.
Pronostic?
Ouais, donc selon nos petits pronostics, je pense que c'était tu vas y aller en premier.
Je vais y aller. On peut dire les pronostics qu'on avait eu pour la les séries dernières, là, on les a pas mentionnés tout à l'heure. Moi, j'avais sélectionné les Bucks pour remporter en 6 matchs contre les Raptors. Donc, heureusement, j'avais tort. Et j'avais pris les Warriors en 6. Donc, j'avais sélectionné la bonne équipe, mais nombre de matchs, j'en donnais au moins deux, là, au moins un du moins aux Trailblazers.
Puis de mon côté, j'étais allé avec les Raptors en 7. J'ai fallu avoir le bon nom, mais j'ai eu quand même les Raptors. Bien content de cela. Et du côté de l'autre série, ben j'avais pris Golden State moi aussi. J'avais donné un petit peu moins de matchs à Portland avec seulement 1 pour 4 pour Golden State. Donc en 5. Et ben les Warriors nous ont pas laissé la chance avec 4 victoires de suite contre Portland. Donc, Raptors, Warriors, le pronostic.
Mon pronostic, j'y vais avec un Raptors en 7. Je vais expliquer pourquoi, parce que c'est rare que je prends contre les Warriors. Là, on assiste vraiment à une des meilleures équipes de tous les temps. Par contre, il y a des statistiques qui sont tombées sur les équipes qui ont au moins 9 matchs, 9 jours de congé avant une série de playoffs. Et c'est pas en leur faveur. Oui, les Warriors sont une équipe qui savent gagner, mais je pense que Toronto va aller chercher les matchs que Durant est absent. Ils vont se donner un petit peu de momentum dans la série. Je vois pas ça partir en 3-0 là, puis des comebacks spectaculaires. Je pense que ça va toujours être peut-être du 1-1. Ça va toujours être serré. Par contre, Toronto est gonflé à bloc. La ville est complètement folle et je les vois pas remporter le sixième match pour finir la série. Donc, je pense qu'ils vont prendre les devants 3-2. Par contre, je les vois pas gagner ce match-là, le match numéro 6 à Golden State. Mais je pense qu'à Toronto, un peu comme dans le match numéro 6 contre les Bucks, je pense qu'il va y avoir une atmosphère féerique dans le stade. Ça va être une bonne série. Je pense que tout le monde est content. Ben, en fait, il y a beaucoup de gens qui auraient aimé voir les Bucks, auraient aimé voir du Giannis contre du Durant ou du Curry. Mais avec les séries que Kawhi Leonard nous fait, si on veut le re-signer cet été, oui, je les prends en 7.
Très bien, très bien. Donc, on a un petit pari personnel. Si je prends la même chose que toi, je pourrais pas gagner. Mais je ne prendrai pas contre les Raptors. Parce que je pense que les Raptors vont gagner aussi. Je crois que si les Raptors remportent cette série-là, on doit gagner rapidement. Parce que Kevin Durant ne sera pas là. Donc, je vais y aller assez expéditif. Je pense que les Raptors vont gagner en 5. Parce que je pense que les... Et aussi parce que j'avais pensé à dire 7, mais je peux pas prendre la même chose que toi si je veux gagner. Donc, si Raptors gagne en 7, je vais être quand même content. Puis je vais donner l'argent à Benjamin, puis tout le monde va être heureux. Ça me dérangera pas du tout. Pourquoi je dis en 5? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire changer la série de bord. Si ce qui arrive, je pense que les Raptors vont gagner en 5. Donc, Kevin Durant n'est pas là en début de série. Comme je l'ai dit tantôt, moi je pense qu'il va être là match 3. Là. Je suis pas dans les coulisses de Golden State. Je sais pas les secrets qu'ils ont. Si Kevin Durant revient au match 3, c'est sûr et certain que le match 1, les Raptors savent que Kevin Durant n'est pas là. Donc le match 1, on est obligé de le gagner à Toronto. On est à domicile, on peut pas perdre ce match-là. Si par chance Kevin Durant n'est pas là au match numéro 2, faut encore une fois prendre avantage du facteur Kevin Durant n'est pas là. Et si les Raptors mènent 2-0 dans cette série-là contre les Warriors, le match numéro 3 va être le match le plus important. Et si les Raptors perdent ce match-là, Je pense qu'ils vont quand même être capables de s'ajuster et d'aller gagner un match à Golden State parce qu'ils ont été capables de gagner. Ils ont été capables de gagner à Milwaukee au match 5, ce que beaucoup de gens pensaient que c'était pas possible. En perdant, en tirant de l'arrière dans ce match-là, en remontant, les Raptors, c'est pas une équipe qui s'écrase quand ils perdent. Ils ont pas l'avance. Je pense que Kawhi Leonard est tellement un joueur inspiré en ce moment et il n'y a rien qui va le déranger. Je sais qu'avant qu'on enregistre, tu m'as montré une photo de Steve Kerr qui mangeait avec Greg Popovich. Et beaucoup de gens disent « Ah, il va dire tous les secrets de Kawhi à Steve Kerr. » Et moi, j'ai répondu en voyant cette photo-là, qu'est-ce qu'il va lui dire? Kawhi Leonard, il n'y a rien que tu peux faire qui va le déranger. Tu vas le fauter, tu vas être physique avec lui, tu vas le trash-talker, il n'y a rien qui va le déranger. Ce gars-là, c'est une machine. Les Raptors ont gagné la finale de l'Est. Il était en entrevue après le match. Ses propos, c'était « On est content, on a gagné. On retourne à l'entraînement demain. On se prépare pour la prochaine fois. » Les gens prenaient des photos. Ils voulaient même pas être dans la photo. Vraiment, là, les concentrer à la tâche à accomplir. Kawhi Leonard est en mission. Et je pense que les Warriors... Je pense que Kevin Durant, ça va leur faire mal. Et je pense, et je serais même pas surpris, les Warriors, ils ont eu beaucoup de chance dans les dernières années, je serais même pas surpris qu'il y aurait peut-être une autre ils peuvent avoir une autre blessure à un joueur vedette qui les aide pas. Ils ont perdu Cousins en première ronde, ils ont perdu Durant en deuxième ronde. Ils vont peut-être, si Iguodala est fragile physiquement, va peut-être manquer d'autres matchs s'il y a un match plus difficile. Il n'y a rien qui compte le fait que Klay Thompson se blesse, Steph Curry se blesse. Tandis que je pense que les Raptors, comme on l'a dit, ils ont le momentum avec eux. Les Warriors, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué. Et les Raptors sont dus. On a beaucoup de joueurs qui ont de l'expérience, qui sont prêts à gagner. Serge Ibaka, ça fait longtemps qu'il est là. Marc Gasol, vraiment, là, c'est pas quelque chose à négliger. Il a beaucoup d'expérience. C'est un joueur qui, dans les grands moments, il est toujours là. Il va pas trembler. Quand les gros tirs à rentrer, il les rentre. Donc, je pense honnêtement que si Danny Green revient Danny Green qu'il est, parce qu'on parle d'expérience, Danny Green a remporté un titre avec les Spurs, rentrait beaucoup de 3 points. Si Danny Green rentre ses 3 points et on a la même performance des autres joueurs durant la série contre Milwaukee et que le banc continue à jouer comme il joue en ce moment, les Warriors peuvent pas nous battre.
Ouais, non, c'est ce que je pense. Les Raptors, là, je pense qu'ils ont malmené monsieur l'huile d'olive, là, monsieur Giannis Antetokounmpo dans cette série-là. Donc, ils vont falloir qu'ils fassent la même chose défensivement. C'est bloquer la porte de la première option offensive qui était Giannis avec les Bucks. Donc là, on prend pour exemple, ça va être Curry la première option. Ce que les Warriors ont, que les Bucks n'ont pas, c'est le talent à 3 points. Klay Thompson est un des meilleurs lanceurs à 3 points de l'histoire. Donc, c'est pas un joueur comme Middleton qui avait des productions à 6 points. Je pense pas qu'il va arriver des matchs comme ça à Klay Thompson. Donc, va falloir qu'on soit responsable. Par contre, ils n'ont pas la force qu'un Giannis a d'attirer tout le monde vers les cercles. Giannis Antetokounmpo, on le connaît avec son premier pas là, qui est plus large que possible. Toute cette attention-là qui était concentrée sur Giannis, là, les Raptors n'ont pas à s'en faire tant que ça. Par contre, là, on assiste à une équipe de Golden State là, qui manie le ballon et qui passe le ballon avec aisance. Donc ça va être intéressant là, comme série.
Oui, puis pour revenir au tir à 3 points, la meilleure équipe de 3 points de la Ligue cette année, c'était les Bucks de Milwaukee, selon les statistiques, je ne me trompe pas. Et les Raptors les ont battus. Ils ont muselé. Donc, du côté des Warriors, on a deux très gros joueurs à 3 points. Tandis que Milwaukee avait beaucoup, beaucoup de bons joueurs à 3 points. Là. On avait du George Hill sur le banc qui peut rentrer ses points. On avait Mirotic, on avait Brogdon, on avait Lopez, Ilyasova, Middleton. Vraiment, on avait beaucoup de joueurs qui pouvaient rentrer 3 points. Mais là, Golden State ont deux joueurs dominants à 3 points. Et par la suite, on a moins de joueurs qui rentrent 3 points. C'est sûr qu'on a un Iguodala qui peut rentrer quelques-uns, mais là, c'est pas la même chose. On a un Draymond Green, c'est pas la même chose. Cousins est blessé. C'est sûr que quand Durant va revenir, là, on va avoir quelque chose. On va avoir trois joueurs qui rentrent les trois points faciles. On a Livingston aussi qui est sur le banc qui peut rentrer les trois points. Vraiment, si les Raptors ont réussi à battre les Bucks sur ça, je pense qu'ils peuvent les battre. Ils peuvent battre Golden State de ce côté-là. Mais comme je le dis, il faut vraiment que Kevin Durant manque deux matchs. Si les Raptors ont seulement un match sans Kevin Durant, je pense que ta prédiction va être plus exacte.
Ouais, c'est ça. Faut que. Le gros, gros shout-out à Nick Nurse, là, pour vrai, pour sa première saison en tant en tant que coach. Qui réussit à amener l'équipe. Oui, c'est un peu l'équipe de Dwayne Casey, mais quand même qu'il a eu à dealer avec des changements d'effectifs. Et vraiment, Nick Nurse a été un. Après le game 2, là, a fait. Avait l'air d'un magicien sur ses calls, sur ses ajustements. On a vu, avec les ajustements que Nick Nurse a fait, Budenholzer se devait de quasiment complètement changer son effectif partant. Mirotić commençait les matchs, était sur le banc. Je pense ne pas jouer du match numéro 6 au grand complet. Puis c'est un lanceur à 3 points, là, vraiment redoutable. Brook Lopez aussi, moins là. Fait que si Nick Nurse, là on en a vraiment deux génies basket en coaching, je crois, là. Nick Nurse, oui, c'est sa première saison, mais tu vois qu'il y en a en arrière de la cravate, puis qui est capable d'amener des solutions pour motiver son équipe. Puis comme tu as dit, c'est pas une équipe qui va s'affaisser quand ils sont menés. Ils vont toujours essayer de se battre. Donc, ouais, j'espère que Kevin Durant va manquer deux matchs. Puis aussi, tu sais, la façon que les Warriors jouent, quand Kevin Durant va revenir dans l'effectif, mais ils joueront pas le même basket qu'ils ont joué sur les deux derniers matchs de la série contre Portland. Il va falloir qu'ils jouent d'une autre façon. Ça va être intéressant. Est-ce qu'on va voir des Warriors un peu déboussolés offensivement? Défensivement, je pense pas que ça va tant affecter, mais ça va être deux styles de jeu. Ça va vraiment avoir affaire à deux Warriors, un avec Durant et un sans Durant. Puis je pense carrément là, que niveau dangereux, difficile à jouer, c'est les Warriors sans Durant qui sont là. Par contre, les Warriors avec Durant peuvent être meilleurs au lancer ou jouer plus d'iso. Ils ont plus d'armes avec Durant. Par contre, les Warriors, là, menés par Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, l'équipe. Classique, là, si je peux l'appeler de même, je pense que c'est elle qui peut nous faire le plus mal.
Ouais, vraiment. Puis pour revenir à Nick Nurse, comme tu l'as dit, moi ce que j'aime de Nick Nurse, c'est comme tu l'as dit, ses ajustements. Quand on a eu un Danny Green qui était pas capable de rentrer ses points, ben on a fait jouer un peu plus du Norman Powell. Puis ce que j'aime, c'est que si on a un Kevin Durant qui revient, ben là, Nick Nurse, c'est pas compliqué. Il va prendre un timer, il va sortir son tabouret, on va faire les stratégies, puis. On va changer notre style de jeu, on va avoir une formation différente, on va peut-être mettre du Ibaka plus au lieu du Siakam, Gasol va être plus là. Vraiment, l'ajustement de Toronto va faire, je pense qu'ils vont remporter cette série-là. Et comme tu le dis, quand Durant va revenir, le style va être différent. Il va avoir du Durant contre du Leonard. Puis, d'après moi, quand Leonard est sur le meilleur joueur de l'autre équipe, on a toujours un avantage. Parce que c'est le meilleur défenseur de tous les joueurs qu'il y a dans les séries en ce moment. Et la pression d'avoir un bon joueur contre lui, c'est toujours bon pour Kawhi Leonard. Ça va toujours le pousser à jouer mieux.
Ça le motive toujours. Tu vois que c'est un gars qui vit que pour ça, le défendre sur le plus gros joueur, avoir le plus gros, la plus grosse lourde charge de travail. C'est un gars qui ne vit que pour ça. Quand il évoluait dans l'Ouest avec les Spurs, puis qu'il jouait contre les Warriors, ben tu le voyais quasiment, c'est pas un gars qui sourit, là, mais tu le voyais quasiment sourire puis avoir du plaisir à défendre sur un gros gars comme Kevin Durant. Donc, ouais. Voilà pour cet épisode du Double Dribble Podcast. N'oubliez pas de nous suivre sur nos pages Instagram, Facebook. On est sur Balado Québec également. Donc, partagez, parlez-en à vos amis. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous pouvez nous écrire toujours. Puis sinon, on se retrouve pour un prochain épisode.